Il y a des gens, je vous le dis tout de suite, j'en fais partie, qui ont la conviction que les livres nous apprennent à vivre, littéralement, à traverser la rue, à acheter le pain, à se faire des amis ou à être amoureux tout simplement. Et souvent ce sont des gens qui vous offrent un livre avec une arrière-pensée, vous savez, qui est que ce livre va vous éclairer et qu'il va tout changer. Quand quelqu'un de mon entourage a une peine de cœur, par exemple, quand il est inconsolable, ben, je lui offre depuis 20 ans les fragments d'un discours amoureux de Roland Barthes. Avec cette idée derrière la tête que ce livre lui parlera, mais surtout qu'il comprendra la grande vérité de l'amour qui nous échappe toujours quand on a la tête dedans, c'est systématique, on l'oublie à chaque fois, le fait que dans l'amour, il est moins question de l'être aimé que de soi, et d'un démon à l'intérieur de soi qui nous habite quand on aime et qui n'est autre qu'un langage. L'amour, dit Roland Barthes, si c'est un acte, c'est d'abord un acte de langage. Il écrit dans ce fragment magnifique qui s'appelle l'entretien que le langage est une peau. Je frotte mon langage contre l'autre, c'est comme si j'avais des mots en guise de doigts ou des doigts au bout des mots. Mon langage tremble de désir et le langage jouit de se toucher lui-même et j'enroule l'autre dans mes mots, je le caresse, je le frôle, j'entretiens ce frôlage, je me dépense à faire durer le commentaire duquel je soumets la relation. C'est merveilleux, c'est délicieusement masturbatoire que l'on souffre, que l'on jouisse, que l'on se pâme ou que l'on se plante, qu'on les dise dans sa tête, qu'on les écrive noir sur blanc, qu'on les déclare à l'autre. Il n'y a que des mots d'amour, il n'y a que du discours.
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Quel discours amoureux élabore mon invité d'aujourd'hui. Palme d'or au Festival de Cannes pour Dipane en 2015, César du meilleur réalisateur pour De battre mon cœur s'est arrêté, Un prophète ou encore Les Frères Sisters. Il est sans doute l'un de nos cinéastes les plus passionnants et les plus récompensés. Les Olympiades, son nouveau film plongé dans les amours urbaines et contemporaines de trentenaires qui se cherchent, sort la semaine prochaine. C'est une œuvre en noir et blanc d'une vitalité absolue. Bonjour Jacques Audiard.
Bonjour Augustin Trapenard.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de plus intéressant pour vous dans l'amour ?
Je serais tenté de dire le discours justement.
Les mots ?
Oui, c'est les mots, c'est la séduction, je crois.
Alors précisément, aujourd'hui en 2021, que deviennent le discours, les mots, le langage en amour ?
C'est la question que je me suis posée. Je veux dire, je suis un enfant de Manu chez Maud. Manu chez Maud posait vraiment un certain état du discours amoureux. Un couple se trouvait une nuit, un homme, une femme, Fabian Trintignant. Ils parlaient toute la nuit de tout. Et ils se couchaient, ils ne faisaient pas l'amour.
Sans voilà. Passage à l'acte.
Voilà, sans passage à l'acte. Et alors aujourd'hui, moi, je me suis posé la question, tout simplement, c'est à cette époque où il y a les applications, on se rencontre très facilement, on fait l'amour le premier soir. Y a-t-il encore un discours amoureux ? Quel est-il ? À quel moment survient-il ? Quels sont les termes de ce discours ?
Et la caméra, justement, peut le produire, ce discours amoureux ?
Bah, peut-être, oui, peut-être. En tout cas, c'est ce que j'ai cherché dans les Olympiades. C'est ces trentenaires flottants qui se mettent un peu hors de la société. Ils ne se marient pas, ils sont en colloque.
Mais ils s'étreignent.
En tout cas, au début, ils passent vraiment beaucoup de temps à faire l'amour.
Alors comment fait-on justement pour filmer ces corps qui s'étreignent, pour filmer le désir ?
Le désir ou d'un point de vue strictement de pudeur, de... Alors comment, moi c'est quelque chose que je peux pas faire vraiment, c'est pas, j'ai beaucoup de mal avec ça, et donc je m'en remets aux comédiens en fait, je les ai fait travailler, ils ont travaillé eux-mêmes par couple en amont pendant une assez longue période. Ça relevait un petit peu de la chorégraphie, ce qu'ils faisaient avec leur coach. Et ils m'ont montré ça, voilà. Et c'est eux, en fait, qui se mettent en scène. C'est pas, et moi, je filme. Mais eux se mettent en scène.
Parce que quel est l'écueil?
L'écueil, c'est, à un moment donné, je me sens mal de dire, on devient vite un réalisateur de films pornographiques. Ah. Allez, chérie, mets-toi comme ci, comme ça, voilà.
Alors, c'est passionnant. Parce que vous interrogez, justement, dans ce film, le statut de l'image pornographique à travers l'un de vos personnages qui fait du porno à la demande et en direct sur Internet.
Qui est Cam Girl, oui, tout à fait. Enfin, le paradoxe du scénario, c'est que c'est celle qui vivra l'histoire d'amour la plus romantique par écran interposé.
Mais l'apparition de ces images pornographiques filmées par webcam, elles correspondent à l'irruption brutale et temporaire de la couleur dans votre film,
qui
par ailleurs est en noir et blanc.
Oui.
Cette irruption, qu'est-ce qu'elle raconte pour vous ?
Elle a presque une fonction scénaristique de chapitrage. Elle correspond à l'arrivée. Le film commence sur un couple. Et une autre personne arrive, un autre personnage qui s'appelle Nora, et en fait ça signale son arrivée d'une certaine façon. Et le personnage qui l'accueille, c'est la cam girl, et en fait pourquoi c'est en couleur ? Parce que c'est, il faut jouer que ce soit marquant, et puis en fait ce petit film qu'elle fait, que fait la cam girl, est un cadeau d'anniversaire, donc c'est pour ça, c'est doré, rouge et vert.
Alors c'est pas seulement en couleur, c'est pas un hasard si cette image est aussi une image numérique qui est censée être vue sur un écran d'ordinateur ou de téléphone, je suppose.
C'est un autre traitement de l'image. C'est comme si, oui, il y a une espèce de chose un peu, avec l'arrivée d'Amber dans le film, il y a une espèce de mise en abîme de tout ça.
Voilà. Parce qu'il y a beaucoup d'écrans.
Oui, il y a beaucoup d'écrans. Il y a les écrans de du rendez-vous, il y a les écrans des apps, il y a des applis. Et puis il y a les écrans de la conversation amoureuse.
Alors ce monde où se multiplient justement les écrans qui sont déclinés à travers différents supports, y compris langagiers, comme vous venez juste de le dire, qu'est-ce que ça vous inspire, Jacques Audiard ?
Bah, ce monde d'écran, il m'inspire tout simplement le désir de faire un point à ma façon sur le discours amoureux. Où est-ce que ça en est? À quoi? Par quel médium ça va passer? C'est une question intéressante. C'est que quand on s'est étreint comme ça, quand on s'en est remis au bras de l'autre, un soir, quand on a connu cette intimité-là, c'est exactement l'inverse, je crois, de la proposition de Romer, de Manu Chimoud. Je postule qu'en fait, que ça devient un amour, une sorte d'amour-amitié, quoi, une sorte de, mais toujours fondée sur le langage.
Ce que vous dites en creux, c'est que ces écrans ont changé quelque chose dans notre rapport aux autres, dans notre rapport au monde.
Absolument.
Dans notre rapport à nous-mêmes aussi.
Ça, je sais pas. Pour moi-même, j'en sais rien. Parfois, je suis un petit peu saoulé par toutes ces images.
Mais vous, par exemple, maintenant que vous avez la possibilité, comme tout le monde, de faire des images avec votre téléphone, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui a changé dans la relation que vous entretenez avec les images?
À partir du moment où, l'image peut se... Vous pouvez voir un film sur votre téléphone, est-ce que c'est encore du cinéma? Est-ce que le cinéma n'était pas lié à, d'une part, à un rapport avec le réel, ontologiquement, c'est-à-dire que c'était comment le... n'existait sur la pellicule que ce qui avait vraiment existé devant. Maintenant, non, pas du tout. Maintenant, le calculateur peut inventer des images intégralement. Et est-ce que, si je vais au bout de la chaîne, est-ce que le cinéma n'était pas cette espèce d'entreprise, de spectacle collectif, où on assistait en même temps à la même chose?
C'est passionnant.
Avec des regards différents.
Qu'est-ce que c'est pour vous un écran de cinéma au fond, Jacques Audiard? Qu'est-ce qui fait sa spécificité, sa singularité encore aujourd'hui?
Un écran de salle, c'est ce qu'il y a de radicalement différent de chez moi, c'est qu'on sera plusieurs. C'est tout. C'est qu'on sera plusieurs et qu'on verra au même moment les mêmes images et on n'éprouvera pas les mêmes sensations. Et ça, je trouve ça bouleversant.
Pourtant, si je vous comprends bien, quand on regarde un film sur un écran de téléphone, c'est toujours du cinéma.
Non, pas du tout pour moi. Non, ça ne l'est plus. On fait semblant parce que le vocabulaire fait défaut. On fait semblant, mais pour moi, c'est pas possible.
Alors, c'est quoi?
Ben, j'en sais rien. Mon cher Augustin, trouvons les mots.
Vous cherchez un mot?
Oui.
C'est que c'est comme ça que Nathalie.
Faisons travailler les lexicographes.
Mais c'est comme ça que Nathalie Sarraute a trouvé le terme tropisme, par exemple, en réfléchissant.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, quand vous réalisez un film, vous n'avez plus l'impression de faire du cinéma, Jacques
Audiard? Alors, si, comment, je pense avoir une attitude complètement contradictoire. C'est que je peux absolument, et je suis convaincu de ce que je disais à l'instant. Et je suis convaincu aussi de l'évidence de la beauté qui apparaît quand je filme. Voilà. Moi, je n'écris pas de romans, je n'écris pas de poésie, j'écris des scénarios, donc ce sont des objets transitoires, qui n'ont d'existence que pour devenir des films. Et il s'avère que je les écris jamais seuls. Et que ce que j'aime dans cette entreprise, c'est son caractère collectif. C'est entre l'idée initiale que je vais avoir et l'idée telle qu'elle va être développée, elle va s'agrandir par les autres. Les autres vont l'agrandir, vont se l'approprier et l'agrandir.
Et quand est-ce que vous avez compris que le cinéma était un langage collectif, justement?
Sans le formuler aussi précisément que ça, je l'ai su assez tôt, parce que j'ai compris que c'était exactement ça que je cherchais.
C'est là que vous saviez que c'était le vôtre aussi?
Oui, c'est ça. Je veux dire que le cinéma, c'est mon rapport avec le monde. Sinon, je n'ai pas beaucoup de rapports.
Vous savez qu'il y en a une dans cette émission qui a son propre langage.
C'est-à-dire?
Ah bah, croyez-moi, c'est pas toujours facile de la comprendre. C'est évidemment la culture et son actualité concept. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, jeudi 28 octobre?
J'accuse le lieutenant-colonel du Paty de Clam d'avoir été l'ouvrier diabolique de l'erreur judiciaire. J'accuse.
C'est aujourd'hui que le musée Dreyfus ouvre ses portes à Médan dans les Yvelines. Installé dans l'ancienne demeure rénovée d'Émile Zola, le lieu de mémoire réunit près de 500 documents, objets ou photographies destinés à perpétuer le souvenir de l'affaire Dreyfus, dénoncée par l'auteur de Germinal dans sa célèbre tribune publiée dans l'Aurore en 1898 et titrée J'accuse. Emmanuel Macron, venu inaugurer l'établissement mardi, a salué les combats pour la vérité, la justice et l'humanisme que portait Émile Zola et que prolonge l'endroit.
Viens défendre notre terre de justice et
Goldorak Go, Jacques. Ce soir, dès 20h, le Grand Rex à Paris organise une soirée de rétrospective consacrée au puissant robot de l'espace et à son pilote Actarus. Au programme, karaoké, concours de costumes, jeux interactifs, diffusion d'épisodes du manga culte, créé en 1975 par l'auteur japonais Go Nagai. Un événement proposé dans le cadre de la vaste expo qui se tient jusqu'à samedi à la Maison de la Culture du Japon et qui célèbre les 45 ans de Goldorak. Ça ne vous rajeunit pas la claque.
Le
Raoul Che, nos collègues de Livre Hebdo ont révélé que la maison d'édition Au Diable Vauvert allait publier l'intégralité des écrits d'Ernesto Guevara, soit 13 ouvrages en 3 ans, de son voyage à motocyclette, adapté à l'écran par Walter Salles, jusqu'à ses notes critiques d'économie politique, en passant par son journal d'un combattant ou sa très dense correspondance de jeunesse et de révolution. C'est tout le destin d'un Che, à la fois intime et politique, que ce projet fou entend dévoiler. Pour Marion Mazoric, patronne du Diable, c'est surtout l'occasion de parler à une génération nouvelle, en quête de sens dans laquelle se reflète la misère du monde. Hasta la revolución siempre.
We've come too far to give up.
On remet le son. Après des mois de silence forcé, le festival Jazz en Comminges à Saint-Gaudens, en Haute-Garonne, rebranche les micros dès ce soir pour 4 jours de swing et de flamboyance au programme Thomas Dutronc, qui viendra réarranger les tubes Frenchy comme Get Lucky ou C'est si bon en mode jazzy, mais aussi le guitariste prodige Birelli Lagraine, digne héritier de Django Reinhardt, la batteuse star Anne Paxeo ou encore le crooner anglais au blues chic Hugh Coltman. Et bam! Le cinéaste Jacques Audiard, invité de Boomerang ce matin pour la sortie, la semaine prochaine, de son nouveau film Les Olympiades, variations sur le roman graphique d'Adrienne Tomine, co-scénarisé par deux femmes scénaristes et cinéastes, Léa Missius et Céline Sciamma. Qu'est-ce qui, selon vous, fait d'elle de bonnes scénaristes, tiens?
Ah ça, c'est mal. Je serais tenté de dire que elles savent bien construire des histoires, elles ont beaucoup d'imagination. L'une et l'autre sont très bonnes dialoguistes. J'ajouterais une chose, c'est que elles sont toutes les deux réalisatrices.
Oui.
Et qui ça, je trouve que c'est une chose assez singulière.
Parce qu'elles écrivent en ayant une idée de la mise en scène.
Oui, c'est ça, un côté de commande assez pratique. On va pas s'entêter sur des idées qui n'aboutissent pas à des bonnes situations.
Vous parlez de dialogue tout à l'heure, Jacques Audiard. À quoi ça tient pour vous un bon dialogue?
C'est un dialogue qui s'efface.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Qui joue en dessous. Il y a eu là tout un travail, notamment sur les Olympiades. C'était les premières versions qu'on a écrites avec Léa. Il y avait beaucoup de, vous savez, comme, je sais pas comment, merci pour le français, de punchline, ouais,
de phrase choc,
un dialogue qui roulait un petit peu des épaules, quoi, voilà.
Oh.
Et il y a eu toute une phase d'aplatissement des coutures. D'avoir quelque chose de plus à plat, comme ça. Je voulais garder des personnages très bavards. Très bavards parce que ça faisait partie de leur narcissisme. Ils aiment bien s'entendre parler. Ils s'aiment bien. C'est des personnages qui sont assez contents d'eux. Voilà. D'où effectivement le côté éducation nationale. Mais il fallait effacer justement ces effets d'épaule.
Ça m'évoque une question. Quelle qualité faut-il pour être un bon dialoguiste, à votre avis?
Un bon dialoguiste, c'est quelqu'un qui va faire du dialogue quelque chose de vraiment de performatif, qui fait avancer l'histoire. Si on vient au cinéma français, le cinéma français était très longtemps écrit par des scénaristes qui étaient d'obédience littéraire. Et donc, il y a peut-être qu'en France que ça existe, où il y a la mention dialoguiste. Et mon père, bien sûr, faisait partie de ces gens-là. Il y avait Janson, il y avait Prévert. Je vais être pas brutal, non. C'était pas forcément des très bons scénaristes. C'était pas des bons scénaristes, forcément. C'était pas leur fonction. Leur fonction, c'était de faire briller une trame qui existait déjà, une trame scénaristique qui existait déjà. Mais ils avaient parfois un rapport assez lointain avec la fabrication du scénario.
Faut-il être à l'aise avec les mots?
Pour les écrire? Il faut avoir, je pense, je peux pas répondre pour moi, je pense, par exemple, mon père, oui, il avait une musique interne, ça c'est, comme on a une oreille interne, il devait avoir une musique à lui.
Ah tiens, c'est drôle, pourquoi vous ne pouvez pas répondre pour vous?
Non, parce que je me considère pas comme dialoguiste. Je sens quand ce n'est pas bien, et puis l'acteur ou l'actrice, le comédien, la comédienne va vous le faire comprendre, va vous le faire entendre à quel point c'est pas bon. Mais c'est moi je me considère pas comme dialoguiste du tout.
Vous vous sentez à l'aise avec les mots pour autant, Jacques Audiard?
À l'aise, c'est-à-dire que je les dévore les mots, moi je les lis, je les dévore, je suis un lecteur.
Comment on fait, Jacques Audiard, pour écrire un bon dialogue? Par quoi ça doit passer? Par quelles étapes est-ce qu'on
passe?
Un
bon dialogue, c'est un dialogue qui est dans la situation, qui ne dépasse pas la situation.
Et lorsqu'on tourne dans une langue étrangère, comment on sait si ça sonne juste? Comment on sait si on est dans la situation?
Alors voilà, moi c'est l'abandon de la langue maternelle par Jacques Audiard.
Waouh! Bah, c'est un sujet de thèse, en fait.
C'est un sujet de thèse. Alors c'est vrai que je peux en faire l'historique. C'est que je sais qu'à un moment donné, et ça a commencé avec un prophète, ça a pris, c'est allé au maximum de son évolution avec Dipin. J'ai eu un rapport difficile avec le français. Je trouvais que, avec la langue, avec les mots, avec tous ces mots qui ont du sens. J'avais envie que des gens dont je ne comprendrais pas le langage me fassent comprendre la situation.
Ah oui, c'est ça. Donc en fait, ça participe de cette réflexion sur le scénario.
Sur le scénario, peut-être que c'est un retour au film, au cinéma muet, mais sauf que comment, moi, j'adorais travailler avec Jésus Tassane et Kali, les acteurs tamouls. Le tamoul, c'était vraiment le chant de la rivière et des oiseaux. Je ne comprenais rien de ce qu'ils disaient, mais ils jouaient. Et l'expression déjà des visages était une chose qui disait tout.
C'est fascinant. Je rappelle que dans Un prophète, certains passages sont en corse, dans Dipan en tamoul, dans Les Frères Sisters en anglais. Et en l'occurrence, ici, dans Les Olympiades, la comédienne Lucie Zhang parle tantôt français, tantôt chinois.
Vrai, ça vient vraiment du personnage d'Adrienne Tomine, où il y avait le personnage d'une jeune asiatique new-yorkaise. Mais c'est vrai que Lucie, c'est typiquement ça, c'est que la langue de la communication, du rationnel, c'est le français, et la langue du cœur, de l'âme, c'est le chinois.
Voilà. Mais c'est-à-dire que vous n'êtes pas beaucoup avec ce souci de réalisme, Jacques Audiard, à tourner des films où il y a ce bilinguisme quand on parle de la France.
Oui, bien sûr, oui. Non. C'est, mais c'est vrai que comment ce film-là m'est apparu sous un aspect de diversité, voilà, diversité ethnique, linguistique, culturelle, sociale, voilà.
Et dans quelle mesure le cinéma a-t-il aussi pour intérêt de permettre au public, dans sa diversité, de s'identifier à ceux et à celles qu'il voit à l'écran?
Je ne sais pas s'il permet, mais est-ce que la fonction du cinéma, c'est pas d'offrir ces formes-là, de les proposer? Moi, ça, il s'avère que ça m'est assez naturel. Et je vous dis, je me répète, c'est esthétique pour moi. Moi, si c'est pour parler de moi, je connais mon pantalon, je connais ma tête.
Il était sorti à votre veste aujourd'hui.
Mais ça s'appelle incomplet.
Faites cinéma. Jacques Audiard, c'est l'un des plus récompensés de ce pays depuis vos débuts. Au milieu des années 90, on a eu envie, pour l'occasion, de le faire entendre.
Quant au prix du meilleur scénario, il revint à Jacques Audiard pour Un héros très discret.
Le César est attribué à Regarde les hommes tombés, réalisé par Jacques Audiard.
Le César de la meilleure réalisation est attribué à Jacques Audiard pour Les Frères Sisters.
Le César est attribué à Jacques Audiard pour Le Battre.
Le César est attribué De battre mon cœur s'est arrêté.
Le César du meilleur film est attribué à Un prophète.
Jacques Audiard. Jacques Audiard pour Dipan.
Je lis sur leurs lèvres.
Sourde.
Oui, sourde. Ça va, on va pas y passer l'après-midi.
Et alors là, par exemple, ils disent quoi, là?
Que je me suis pas mal débrouillée. Que c'est une chance pour un cageux comme moi d'avoir trouvé un type comme vous.
Il y a un mec qui t'a parlé dans les douches hier. Je veux que tu t'approches de lui, que tu deviennes pote avec lui.
Pourquoi?
Parce que tu veux le tuer. Mais dis-toi bien une chose. À partir du moment où tu le sais, si tu le tues pas, c'est moi qui le tue.
C'est pour ça que tu restes avec lui, c'est pour pouvoir dire des trucs comme je l'appelle, t'es mort.
Ouais.
C'est ça, ça te fait kiffer de dire des trucs comme ça. Mais c'est pas plutôt le contraire, non? T'as les boules, t'es morte de trouille, t'es terrorisée. T'oses même plus respirer sans lui demander la permission.
Ça te dirait de te battre? On sort dehors, on se file des pains, une bonne branlée. Avec quoi, ça sympa.
La nuit, je mens, je prends des trains à travers la plaine. La nuit, je mens. Je m'en lave les mains.
On peut te buter aussi.
Alors ça, c'est une idée. Alors dans ce cas-là, votre patron, il peut définitivement s'asseoir sur son pognon.
Qu'est-ce que tu proposes, malin?
Travailler.
Qu'est-ce que tu sais faire, connard?
À peu près les mêmes choses que toi, du con.
Moi, je suis quoi pour toi? Une amie? Une copine? Un genre de pote, quoi, comme Poète et les autres? Tu baises avec tes potes, toi? Si tu veux qu'on continue, faut faire les choses bien. Je te parle de délicatesse, mais tu sais très bien ce que c'est, t'as pas arrêté d'en avoir avec moi de la délicatesse.
Jacques Audiard, le cinéma, vous avez baigné dedans dès votre plus jeune âge. C'est d'abord en tant que monteur, puis scénariste et assistant réalisateur que vous avez commencé. Il a fallu attendre près de 20 ans avant que vous réalisiez votre premier film à 40 ans passés. Pourquoi ça a été si tardif?
Alors, la première réponse un peu facile serait peut-être que je suis un lent. Il y aurait peut-être une pensée trop simple, je crois, de l'ascendance familiale de mon père. Moi, j'ai l'impression que dans toute expérience, je dis professionnelle, j'ai toujours eu 3 ans ou 5 ans de retard. Toujours, toujours. J'ai fait 3 ou 4 ans de trop de montage, je suis resté un peu trop au théâtre, j'ai fait trop de scénarios. C'est ça. Et si je retranche ces 5 années perdues, je me trouve à un âge assez juste pour faire les choses. J'aurais eu 35 ans au lieu d'en avoir 40 et quelques.
Il y a eu une insatisfaction à un moment donné dans le fait d'écrire pour les autres,
oui.
Qui aviez écrit pour Georges Lautner, pour Claude Miller, pour Josiane Balasko.
Oui, j'ai une insatisfaction, mais une insatisfaction assez particulière qui était interne à la pratique scénaristique. Je me suis pas dit, tiens, j'écris des scénarios, pourquoi pas les mener jusqu'au bout. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est que je trouvais que souvent mes interlocuteurs n'avaient pas assez d'exigences dramaturgiques. Voilà, c'était ça. Ils n'étaient pas assez exigeants sur la pratique du scénario et ce à quoi ça devait aboutir.
C'est intéressant. C'est pas que vous ne vous sentiez bridé, c'est non, au contraire que vous exiger de l'exigence.
Oui, c'est ça. Et donc, à la longue, c'est fatigant.
Jamais vous ne vous sentez bridé en tant que cinéaste, vous?
Non, non, non. Moi, je suis bridé que par moi-même, en fait.
Non, c'est vrai. Et quand est-ce que vous vous sentez libre, alors?
C'est marrant, c'est pas parce que je ne suis pas bridé que je suis libre. Vous voyez ce que je veux dire, c'est comment je me sens ni tout à fait libre, ni complètement bridé.
Et quand est-ce que vous vous sentez bien?
Jamais.
Quand vous écoutez Étienne Dao, par exemple?
Si, alors Étienne, ça c'est...
Ah bah voyez,
ça c'est l'amour de... Alors ce qu'il y a de fou, ça fait longtemps.
Ah bah c'est une longue histoire, j'ai l'impression.
Ah oui, Tombé pour la France.
Tombé pour la France, qu'est-ce qui vous lie si profondément à sa musique?
C'est un artiste que j'adore, qui a un renouvellement constant, et qui n'a pas... voilà. Comme moi, j'ai toujours pris au sérieux le scénario. Lui, il a pris très au sérieux la pop, comme véhicule.
Bon, on l'écoute. Étienne Dao qui reprenait, souvenez-vous, la musique du film Mon Oncle de Jacques Tati, popularisé par Édith Piaf, Mon Manège à moi, sur l'album Paris ailleurs, en 1991, parce que vous nous faites tourner la tête ce matin tout autant que vous êtes.
Paroles de Jean Constantin.
Sur France Inter.
Paroles et musique.
Avec Jacques Audiard, vous écoutez Boomerang, évidemment.
Tu me fais tourner la tête. Mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête. Quand tu me tiens dans tes bras, je ferai le tour du monde. Que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Planète, tant que j'ai mon cœur près du tien, j'entends les flonflons de la fête, et la terre n'y est pour rien. Ah oui, parlons-en de la terre, pour qui elle se prend la terre. Problème, car c'est pour la vie qu'on s'aime. Et s'il n'y avait pas de vie même, on s'aimerait quand même. Ah, est-ce qu'on est bien tous les deux? Quand on est ensemble,
France Inter, Boomerang, Augustin Trapenard.
En fait, on est quelque part entre un personnage du petit Nicolas et un tonton flingueur. Le sourire timide, l'œil aux aguets, chic à souhait, tout en complet. Il nous l'a bien souligné ce matin le cinéaste Jacques Audiard, invité de Boomerang pour les Olympiades. Ce film sur trois jeunes trentenaires qui habitent dans le quartier des Olympiades à Paris, qui sont... un peu perdu et qui semble tout savoir pour aspiration de changer de vie. Ce Paris du 13e arrondissement, qu'est-ce qu'il incarne pour vous, Jacques?
Alors, il incarne la diversité et la modernité. Moi, j'y ai vécu longtemps et je l'ai tout de suite aimé pour ça. Et depuis, d'ailleurs, il a beaucoup changé. C'est un des rares arrondissements où ça a construit en hauteur, en longueur.
Oui, c'est intéressant parce que Paris, c'est une ville que l'on connaît aussi à travers le cinéma. Et pourtant, vous dites que c'est une ville très difficile à filmer.
Oui, parce qu'elle est, comment elle se referme sur elle-même. Elle est devenue muséale, un petit peu romantique et touristique. Ce qui est très surprenant, c'est que si on est dans une tour du 13e arrondissement et qu'on regarde la rive droite, on a vraiment l'impression d'être dans une métropole étrangère. On est à Paris, hors Paris.
D'accord, donc vous voulez dire que ce que filmait le 13e rend possible, c'est un autre traitement de Paris,
Oui, tout à fait. Ça déprovincialise Paris, pour moi.
Quand vous écrivez, à quel moment commencent à apparaître les images? Je me suis demandé...
Là, ça s'est fait en deux temps, mais très très vite, c'est quand j'ai repris le travail avec Léa, très vite tout était là. Le lieu, l'espace, le 13e arrondissement, la mixité, la jeune chinoise, enfin tout.
La verticalité.
La verticalité, les tours et le noir et blanc.
Qu'est-ce qui pour vous fait la force d'une image de cinéma?
C'est que elle garantit mes souvenirs.
Ah, c'est beau ça.
Ben c'est vrai, je ne peux pas dire autrement.
Ça veut dire que vous n'avez pas confiance.
Enfin, le cinéma, les films que j'ai vus sont les garants de mes souvenirs. J'oublie plein de choses, sauf certaines images, et puis certaines images me ramènent à des lieux, et des lieux que j'ai connus à certains moments de ma vie, voilà, ou des visages que j'ai connus à certains moments de ma vie.
Pensez à quoi? Avec quel cinéma est-ce que vous avez grandi, par exemple?
Si je pense à tout le cinéma, disons, d'après-guerre jusqu'aux années 60-65, incluant la Nouvelle Vague ou même le cinéma populaire réaliste d'après-guerre, je sais que ce sont mes souvenirs, ce sont les rues que j'ai vues, ce sont les visages que j'ai connus, ça, le cinéma est très efficace pour ça.
Votre père, par exemple, qu'est-ce qu'il vous emmenait voir? Sur quel film?
Non, il ne m'emmenait pas au cinéma. Bon.
Jamais?
Non. Non, non, on n'allait pas au cinéma.
Même pas aller voir Bambi?
Même pas Bambi. Vous savez, moi, j'ai une enfance provinciale. Il n'y avait pas de cinéma. Le cinéma, c'était l'institution catholique. Voilà, c'était ça.
Alors, ça représentait quoi entre vous deux, le cinéma?
Le cinéma entre nous deux, c'était beaucoup la conversation, bien sûr des échanges, des recommandations, mais l'échange entre mon père et moi, c'était de la littérature.
Vous dites parfois, et c'est assez émouvant, que le cinéma, c'était un art qu'il ne prenait pas vraiment au sérieux,
ah oui.
Qu'il entretenait un rapport un peu cynique avec le cinéma. Qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites
ça?
Ah
non, j'ai pris retour, confer supra, je reviens sur la question, peut-être que c'est ça qui m'a fait perdre du temps. Voilà, c'est peut-être ça qui m'a fait perdre du temps, c'est qu'à la fois, comment le cinéma était très très accessible, puisque c'était le travail, c'était l'étau, et qu'en même temps, moi, comment les conversations que j'avais avec mon père, sur le cinéma, à partir d'un moment, ne m'ont plus du tout, on n'était pas d'accord. J'avais une autre idée du cinéma.
Ça donnait lieu à des engueulades?
Non, pas du tout, non.
Vous savez, c'est drôle, parce que je trouve qu'il est très présent dans cet entretien, votre père.
Oui, c'est marrant. Hein.
Vous y revenez?
Oui, j'y reviens à la source.
De plus en plus?
Pas de plus en plus. Ou alors c'est peut-être des choses annexes, comme le Thierry Frémaux, très gentiment, avait fêté le centenaire de la naissance de mon père à Lyon, à Lumière. Et c'est vrai que ça m'a fait me repencher là-dessus.
C'est de votre père que vous avez souhaité nous parler, d'ailleurs, ce matin,
oui,
à travers les mots d'un de ses amis, le romancier Frédéric Dard, dont l'un des alias n'était autre que le fameux San Antonio. Pour quelle raison est-ce que vous avez choisi ça?
Mon père est décédé le 27 juillet 85, et c'est un texte qui est paru dans Libération le lundi, donc le 29. Le texte m'a fait un très gros effet, le texte de Frédéric Dard. Et surtout, j'ai découvert quelque chose que j'ignorais. C'était une espèce d'amitié affectueuse qui a duré. Ils se sont connus en 47-50. Ils ont commencé le Fleuve Noir ensemble. Et c'était une amitié qui s'est très très peu dite. Moi, j'en ai pas eu écho. J'ai jamais rencontré Frédéric Dard. Mais c'était visiblement une amitié qui a duré très très longtemps. Il y a beaucoup d'affection dans cette amitié. C'est très surprenant.
Vous nous la faites entendre?
Oui, bien sûr. À gauche, il devait y avoir la nécro dans Libération et le papier de Frédéric Dard à droite. C'est un hommage. Ça s'intitule « C'est quoi un homme en vie ?» La note de Libération, Frédéric Dard aimait Michel Audiard, simplement il le dit. « Qu'est-ce qui nous prend, Michel, de mourir comme des cons, nous qui pourtant savions vivre ? Nous l'avions compris que tout cela, la vie, la mort, les autres, n'étaient qu'un immense malentendu. Alors, parce que nous avions respiré un grand coup cette évidence, on passait outre. On faisait un peu semblant, juste pour dire, semblant d'écouter, semblant d'écrire, semblant de compter en banque, de voter aussi parfois, semblant d'être Michel Audiard et Frédéric Dard. On demandait qu'un peu d'amour et de vin rouge, on tissait notre liberté jour après jour. Ça oui, notre liberté, Michel. Parfois, au coin d'un bois, après une salve de calembredaine, on allait hurler un bon coup. Pas à la mort, Michel, à la vie. Elle était tant tellement plus redoutable, plus gueuse et féroce. J'ai encore dans l'âme certains de ces cris que tu as poussés par des nuits sans lune, quand tout ça devenait trop terrible à supporter. Des cris comme celui que lance Anthony Quinn à la fin de la Strada, quand il comprend que la vie est finie, qu'elle a eu lieu sans lui. Michel, je nous revois en train de pisser chez Lippe, des Bordeaux de qualité que nos moyens nous permettaient. On ressemblait à deux bourrins dans leur stall et on échangeait des répliques à 100 000 balles pièce. On se racontait nos maléfices à mots couverts, on se débusquait les chagrins avec des voix sarcastiques et nos larmes rentraient s'en allaient à travers nos vessies. Ils vont passer et repasser tes films, mon drôle, et dire comme quoi tu as été ceci, cela. C'est l'instant tragique des capotes anglaises nécrologiques. Chacun va sortir sa boîte de superlatifs. On va t'astiquer la mémoire. Moi, je vais leur répondre à ces vernisseurs de cercueil, c'est que tu auras été un vrai bonhomme en vie et qu'il n'y a pas de mort qui tienne. Tu le resteras. C'est quoi un homme en vie? C'est un homme qui comprend tout et devine ce qu'il ignore. C'est un homme qui transforme sa misère en chanson de salle de garde et qui se cache pour se gratter la peau de l'âme comme si c'était celle de ses couilles. Un soir, dans une chambre d'hôtel à Venise, j'ai lu d'une traite ton dernier livre, La nuit, le jour et toutes les autres nuits. J'ai reçu comme une balle dans la peau. Après l'avoir refermé, je me suis mis à chialer. Ces larmes, je l'ignorais alors, étaient un acompte sur le chagrin d'aujourd'hui. Comme je me sentais inconsolable, je t'ai écrit une longue lettre à laquelle tu n'as pas encore répondu. Mais ça fait rien, Michel. J'attendrai. Frédéric Dard.
Quel texte extraordinaire.
C'est bien, hein?
Votre père, vous lui écriviez, vous aussi?
Ah non. Non, non, on parlait.
Et si vous deviez lui écrire, qu'est-ce que vous lui diriez? De quoi vous aimeriez lui parler?
Non, je sais pas. Je sais plus, Augustin.
Et s'imaginer un jour que vous réaliseriez des films?
C'est une chose que je regrette. En fait, j'ai deux regrets. Enfin, j'ai déjà dit, je le répète. C'est le fait qu'il n'ait pas vu mes films, enfin, en tant que réalisateur, et qu'il n'ait pas connu mes enfants. Voilà.
Et il vous arrive de réfléchir à ce qu'il vous aurait dit s'il avait eu le temps de voir vos films, vous qui connaissiez ses goûts?
Là, je pense qu'on aurait une conversation intéressante sur le cinéma pour une fois.
Et à croire, Frédéric Dard, c'était aussi un homme qui avait un talent fou pour la vie.
Ça, je sais pas. Alors, c'est une chose un peu mystérieuse pour moi. La vie de mon père est très mystérieuse, en fait.
Et vous, vous l'avez le goût pour la vie?
Oui, oui, bien sûr.
Qu'est-ce que vous
dit-il comme ça un peu rapidement? Oui, mais bien sûr, oui.
Et moi, j'enchaîne. Quand est-ce que vous vous sentez vraiment en vie? C'est ma dernière question.
Oh la vache. Et Dieu dans tout ça?
Non. C'est pire.
C'est pire.
Bah là, maintenant, tout de suite.
Là, je suis en vie, oui. Ouais. Mais se sentir en vie, c'est quoi au juste? C'est jouir, carpe diem, c'est...
Pour moi, ce sont deux choses différentes, jouir et carpe diem.
Ça serait quoi alors?
Moi, jouir, ça me va bien, moi.
Pardon?
Quand je jouis, j'aime bien.
Ah, d'accord, ok. Bah oui, d'accord. Ça me va, ça me va.
Merci infiniment, Jacques Audiard, d'être venu faire un tour dans Boomerang. Je rappelle que les Olympiades, avec les incroyables, les Je pèse mes mots, Lucie Zhang, Noémie Merlan, Makita Samba, Jenny Bess, sort mercredi, c'est un film puissant, plein de souffle, de fulgurance, tout de suite les médias, Sonia De Villers et son instant M, juste après ça.